VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 12 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Une tentative de coup d'État a été déjouée au Soudan, a annoncé un membre du conseil militaire au pouvoir.
Tripoli réclame des explications urgentes à Paris sur la découverte de missiles de l'armée française dans un QG de Khalifa Haftar en Libye.
Au Mali, 7 civils ont été tués dans une nouvelle attaque hier dans le nord-est, près de la frontière avec le Niger.
En Centrafrique, de nouveaux affrontements au quartier PK5 de Bangui ont fait 4 morts.
Ici à Washington, le président Donald Trump a renoncé à imposer la question sur la nationalité dans le recensement de 2020.
Et en sport, ne manquez pas les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'instant, le journal.
Au Soudan, un représentant du conseil militaire au pouvoir depuis la chute d'Omar al-Béchir a affirmé hier qu'une tentative de coup d'État a été déjouée alors qu'un accord avec les contestataires sur la transition devait être signé dans les prochains jours. Des officiers et des soldats de l'armée ainsi que des services de renseignement, dont certains retraités, ont tenté de mener un coup, a déclaré dans la soirée le général Jamal Omar dans une allocution retransmise en direct à la télévision nationale, ajoutant que 12 officiers et 4 soldats avaient été arrêtés.
Le gouvernement libyen d'Union nationale, reconnu par l'ONU, a demandé hier des explications urgentes à Paris après que la France a reconnu que des missiles découverts dans un QG du maréchal Khalifa Haftar, près de Tripoli, lui appartenaient. Paris dément cependant les lui avoir fournis. Le GNA veut qu'on lui dise le mécanisme par lequel ces armes découvertes à Gariane sont parvenues aux forces de Haftar, quand elles ont été livrées et comment.
Nouvelle attaque dans le nord-est du Mali. 7 civils, dont 5 passagers d'un véhicule, ont été tués jeudi près de la frontière avec le Niger par des assaillants armés. Le point avec Morgane Guiriec.
La voiture transportant des civils a été ciblée à quelques dizaines de kilomètres de Ménaka. Les assaillants ont tué 5 personnes, puis sont allés dans un hameau pour tuer 2 autres civils, selon des officiels. Les auteurs de l'attaque étaient des hommes armés circulant à moto. Une enquête est ouverte, assure la gendarmerie malienne. La zone de Ménaka est souvent le théâtre d'attaques attribuées à des djihadistes qui ont prêté allégeance au groupe État islamique. Les attaques sont souvent accompagnées d'exactions contre les populations civiles, appartenant surtout aux communautés Peuls et Touaregs de la région. Depuis 2015, les violences se sont propagées dans le centre et le sud du Mali, au point de déborder vers le Burkina Faso et le Niger voisin.
Et au Burkina même, l'état d'urgence en vigueur depuis décembre dans plusieurs provinces du pays a été prorogé jeudi de 6 mois par l'Assemblée nationale. Précision d'Irénée Herman Ungo.
Le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence adopté hier à l'unanimité par le Parlement prend effet à partir de demain 13 juillet 2019 et sera valide jusqu'au 12 janvier 2020. Cette prorogation vise à renforcer et consolider la lutte contre l'insécurité et donner plus de moyens aux forces de défense et de sécurité selon les députés. L'état d'urgence concerne 14 provinces situées dans 7 régions sur les 13 que compte le pays. Elles subissent des attaques de plus en plus récurrentes et meurtrière de djihadistes. Décrété par le président Roch Marc Christian Kabore en décembre 2018, l'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile de jour comme de nuit. Certaines libertés peuvent aussi être restreintes, comme la liberté de circulation ou de rassemblement.
En République centrafricaine, 4 personnes ont été tuées et 26 autres blessées mercredi soir et jeudi au cours d'une reprise des affrontements entre des commerçants et des miliciens du quartier musulman du PK5 de Bangui, la capitale. Les affrontements ont causé la mort de 3 membres de groupes d'autodéfense, selon Awad al-Karim, imam de la mosquée Ali Babolo, située au PK5. Leur corps, ainsi que celui d'un commerçant tué mercredi soir, ont été amenés jeudi à sa mosquée. Médecins sans frontières a fait état jeudi soir de 26 blessés dans le quartier qui, depuis plusieurs semaines, n'avait pas connu de violence.
Le président français Emmanuel Macron a assuré hier que l'avenir du franc CFA pouvait être discuté de manière apaisée et sans tabou. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont confirmé, on le sait, leur intention de se doter d'une monnaie commune. Le point avec Jean-Roger Bion.
C'est un sujet qu'on doit pouvoir ouvrir et qu'on a décidé d'ouvrir ensemble, de manière apaisée, sans culte du symbole, sans tabou, a déclaré Emmanuel Macron à l'issue d'un débat à l'Élysée avec 400 représentants des diasporas africaines et le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Les 15 États de la CDAO, dont le Ghana, se sont mis d'accord fin juin pour l'adoption à l'horizon 2020 d'une monnaie unique nommée ECO. Il y a des défis, mais le développement de l'Europe a eu un impact et l'un des piliers a été la monnaie unique, selon M. Akufo-Addo. 8 pays de la CDAO utilisent le franc CFA, tandis que 7 autres ont leur propre devise. Établi en 1945, le franc CFA est aujourd'hui indexé sur l'euro, ce qui maintient les économies africaines dans la dépendance de la politique monétaire européenne. Par ailleurs, les États africains doivent déposer 50% de leurs réserves en France. En contrepartie, leur convertibilité illimitée avec l'euro leur donne une crédibilité internationale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a annoncé avoir pris un décret ordonnant au département du commerce de rassembler toutes les informations disponibles sur la nationalité américaine dans les bases de données fédérales des différents ministères. Mais il a renoncé à imposer une question controversée sur la nationalité dans le prochain recensement qui, selon la Constitution, doit se tenir tous les 10 ans aux États-Unis. Le président américain a donc choisi une autre voie, la Cour suprême ayant bloqué il y a 2 semaines l'ajout d'une telle question, jugeant artificielle les explications fournies par l'administration Trump.
Selon le New York Times, les États-Unis doivent lancer dimanche une vague d'arrestations et d'expulsions d'immigrés clandestins, une opération annoncée fin juin, puis reportée par le président Trump. Le point avec Raissa Gironda.
Selon le New York Times, les raids de la police de l'immigration doivent débuter dimanche dans une dizaine de villes et visent au moins 2000 sans-papiers qui ont omis de se présenter à des audiences devant des tribunaux ou ont reçu des avis d'expulsion. Selon le quotidien de New York, ces clandestins venus illégalement aux États-Unis ont déposé fin 2018 leur dossier de régularisation et ont reçu leur avis d'expulsion en février dernier. L'opération concerne près d'1 million de personnes, avait déclaré Ken Cuccinelli, chef des services de l'immigration, précisant que tout ne se fera pas en un seul jour. Cette vague d'arrestations a été annoncée le 21 juin, puis reportée de 2 semaines pour laisser le temps au Congrès de trouver un compromis sur les mesures de sécurité à la frontière sud. En juin dernier, plus de 104 000 personnes ont été placées en détention après avoir franchi illégalement la frontière avec le Mexique, soit 40 000 de moins qu'en mai. Selon le centre de recherche Pew, 10,5 millions d'immigrants vivaient illégalement aux États-Unis en 2017. Près de 2/3 sont dans le pays depuis plus de 10 ans.
Les États-Unis ont confirmé hier leur intention de former une coalition internationale pour escorter les navires commerciaux dans le golfe Persique, et ce au lendemain d'un incident avec la marine iranienne qui a, selon Londres, tenté de bloquer le passage d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz. Cette opération internationale devrait se mettre en place dans les prochaines semaines, a expliqué le général Mark Milley devant une commission du Sénat américain examinant sa nomination au poste de chef d'état-major interarmes.
En France, un supporter de l'Algérie a perdu le contrôle de son véhicule et fauché une famille jeudi soir à Montpellier, tuant la mère et blessant grièvement sa fille et son bébé, selon l'AFP. À l'heure actuelle, nous essayons de déterminer les circonstances du drame, a dit la sûreté départementale, indiquant qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues jeudi soir après la victoire de l'Algérie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Fin de ce journal sur VOA Afrique et malheureusement après cette triste nouvelle, il est temps quand même de revenir au sport avec le journal de la CAN présenté par Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Le compte des faits de Madagascar s'est arrêté en quart. La Tunisie a battu les surprenants Barya 3-0 hier au Caire pour aller dans le dernier carré de la CAN pour la première fois depuis 2004. L'équipe d'Alain Giresse a réussi sa meilleure période au retour des vestiaires, concrétisée par des buts de Ferhadji Sassi à la 52e, Youssef Msakni à la 60e et Naïm Sliti à la 92e. Jusque-là, les Tunisiens avaient buté 5 fois en quart en 15 ans depuis l'année de leur unique titre remporté à domicile. Ce succès brise la malédiction et met en route la machine à rêver. Ses supporters, peu nombreux au stade Al Salam, le sauront face au Sénégal dimanche en demi-finale. Juste avant la Tunisie, l'Algérie a arraché son ticket pour les demi-finales en éliminant la Côte d'Ivoire. À l'issue de la séance des tirs au but, 4 tirs réussis contre 3. Le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Sofiane Feghouli avait ouvert le score pour les Fenech à la 20e minute, mais Jonathan Kodia a répliqué à la 62e pour les éléphants qui se sont finalement inclinés au tir au but. Désormais, le coach ivoirien a le regard tourné vers l'avenir. Ibrahim Camara.
Je retiens le fait que les garçons qui sont venus ici ont beaucoup appris et on va s'appuyer là-dessus pour continuer le travail de reconstruction et de compétitivité que nous recherchons à travers cette compétition. Si je prends l'exemple du Sénégal en 2017, ils s'étaient arrêtés en quart de finale. Aujourd'hui, ils sont à demi. Donc, plus de 2 ans pour construire. Il n'y a pas eu le feu à la maison. Donc, il faut laisser le temps aux jeunes de s'aguerrir. Je pense qu'on a une belle équipe, on a une belle génération. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter.
En face, c'est mission accomplie pour le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi.
Se qualifier devant la Côte d'Ivoire, allant en demi-finale, c'est une énorme satisfaction. Une de mes ambitions, en tous les cas, pour mon arrivée en équipe nationale, c'était de repasser l'Algérie dans le gotha des grosses équipes africaines. Donc, rejoindre 3 équipes mondialistes et nous comme 4e, je trouve que c'est déjà pas mal.
Les Algériens sacrés en 1990 à domicile affronteront le Nigeria en demi-finale dimanche au Caire. Pas le temps de savourer pour les Fenech, il faut se remettre au travail.
Il va falloir se dépêcher, être très bon là-dessus, sur l'aspect de la récupération. Ensuite, il va y avoir des ressources psychologiques qu'il va falloir aller chercher. On va tomber contre un adversaire encore très très difficile. Mais comment on aurait pu être autrement en demi-finale de la Coupe d'Afrique?
Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué revient sur ses 2 matchs des quarts de finale. C'est le coup de sifflet.
Bonjour. Dans l'univers impitoyable qu'est devenue cette 32e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les finales avant la lettre se suivent et se ressemblent avec la même qualité, la même intensité et les mêmes émotions sur ou en dehors du terrain. Le match de quart de finale de jeudi soir entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire n'a pas dérogé à cette règle. Les Ivoiriens qui venaient de livrer un match frustrant contre la jeune et brillante formation du Mali au tour précédent se devaient de sortir le grand jeu face à l'Algérie pour justifier leurs ambitions. Ils vont prendre le jeu à leur compte dès l'entame du match en installant un bloc athlétique avancé qui va gérer pendant le premier quart d'heure les transmissions algériennes tout en lançant des contres incisifs avant la révolte de Marez qui permet à Feghouli d'ouvrir le score à la 20e minute contre le cours du jeu. Les faits de match vont se succéder dans cette rencontre relevée du pénalty du break marqué par Bounedja à l'égalisation méritée de Kodia avant que l'enjeu ne tue le jeu et n'augmente la pression sur les épaules des 22 acteurs. Une pression qui va culminer lors de la fatidique séance de tir au but gagnée par les Fenech, somme toute méritant au vu de leur parcours d'ensemble. L'Algérie retrouve le Nigeria en demi-finale, alors que dans le dernier quart de finale de la soirée, la Tunisie a rehaussé son niveau de jeu pour surpasser l'héroïque formation des Émirs de Madagascar, dont la chevauchée fantastique est déjà le fait marquant de la compétition. La CAN marque la pause ce dimanche qui précède les joutes impitoyables des demi-finales avec le double duel nord-ouest entre l'Algérie et le Nigeria d'une part, puis la Tunisie et le Sénégal. À bientôt.
Dans le reste de l'actualité sportive, nous parlons de tennis. Le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal, respectivement numéro 3 et 2 mondiaux, se retrouvent aujourd'hui pour la 4e fois à Wimbledon en demi-finale, 11 après la dernière des 3 finales entre les deux champions 2006, 2007 et 2008, qui ont marqué l'histoire du tournoi du Grand Chelem londonien. Chez les dames, l'américaine Serena Williams, septuple lauréate à Wimbledon et qualifiée pour la finale contre Simona Halep, n'est plus qu'à une victoire du record de Margaret Court, détenteur de 24 tournois du Grand Chelem. L'ancienne numéro 1 mondiale a rejoint hier la Roumaine 7e grâce à sa victoire expéditive sur la Tchèque Barbora Strikova 6-1-6-2. Williams court après ce 24e sacre depuis janvier 2017 et sa victoire à l'Open d'Australie. C'est tout pour le Journal des Sports.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la présence militaire de la France est décriée. Pour bon nombre de Maliens, la force Barkhane ne joue pas bien son rôle de lutte contre le terrorisme, et ce, parce que les attaques terroristes continuent et la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Pour sortir de cette situation, l'ambassadeur de France au Mali a préconisé l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation. Notre correspondant Bamako, Kassim Traoré, fait le point.
Lancée en janvier 2013, l'opération Serval est une opération militaire menée au Mali par l'armée française. Elle s'est achevée en juillet 2014. C'est après que les forces engagées ont intégré un dispositif régional intitulé Opération Barkhane. Joël Meyer, ambassadeur de la France au Mali.
Simplement parce que peut-être aussi comme les Maliens, certains se posaient la question de savoir depuis tant d'années pourquoi on n'est pas encore arrivé à la stabilité totale ni à la mise en œuvre de l'accord de paix, voire la dégradation de la situation qui est constatée dans le centre. C'est une réalité. Nous avons la mémoire courte, mais si la MINUSMA est intervenue, si la France est intervenue, c'est parce qu'il y avait des problèmes dans le Nord. Et ce n'était pas la première fois. Nous étions à la 6e ou 7e rébellion dans le Nord. Donc on voit bien qu'il y a besoin de tout mettre en œuvre pour avoir une solution durable. Et cette solution durable, c'est l'accord de paix.
Barkhane a pour mission de traquer les terroristes dans le Sahel. De nos jours, les pays du Sahel sont débordés par des attaques terroristes. Ibussi, chroniqueur.
Comme vous le savez, depuis un certain temps, il y a plusieurs opérations. Il y a une opération des Nations Unies qui est au Mali ici. La MINUSMA à laquelle on a demandé à maintes reprises de rendre plus robuste leur mandat. Ils ne l'ont jamais fait. On a l'opération Barkhane qui est là, plus de 4000 hommes sur notre territoire. On a le G5 Sahel, on a toutes ces forces-là qui ne servent quasiment à rien aujourd'hui, qui n'empêchent pas en fait les multitudes de meurtres et tueries, les multitudes de massacres même qu'il y a aussi ici au Mali.
La priorité des Maliens demeure toujours la sécurité. C'est pour cela qu'ils pensent que l'insécurité est en train de bloquer plusieurs activités. Jamil Bitab de la majorité présidentielle.
Peut-être que le mandat qu'on les a conféré, entre guillemets, n'est pas un mandat à hauteur de soi. Et là également, nous disons que nous avions besoin de nous rassurer parce que nous avions tout comme priorité au Mali aujourd'hui. Si nous arrivons à sécuriser notre territoire de façon correcte, les autres chantiers qui sont nombreux, sécurité alimentaire, aujourd'hui tous les phares sont braqués, en tout cas sur le positionnement sécuritaire.
De plus en plus de voix s'élèvent à Bamako pour demander le départ de Barkhane. Ibussi, chroniqueur.
La Russie, par exemple, est un partenaire très fiable parce qu'on a vu, par exemple, le cas de la Centrafrique où on entendait tous les jours les balakas, les anti-balakas, les sélékas qui se tuaient, etc. Lorsque le président centrafricain a eu le courage d'aller vers Poutine, vers la Russie, aujourd'hui on n'entend plus pratiquement parler du Centrafrique, on n'entend plus parler pratiquement de ces multiples tueries qu'il y a. On a vu le cas du Venezuela aussi, vous avez vu lorsque les Russes sont arrivés, dans un petit peu partout les Russes, à chaque fois quand ils arrivent quelque part, ils calment la situation et on pense que le Mali aussi doit le faire.
Le chef d'état-major des armées françaises a estimé ce jeudi que les pays d'Israël s'effondraient sur eux-mêmes et que le terrorisme y deviendrait incontrôlable sans l'appui de la force française Barkhane. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Oui, comme vient de le dire Kassim, le chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre, a donc estimé jeudi que les pays du Sahel s'effondreraient sur eux-mêmes et que le terrorisme y deviendrait incontrôlable sans l'appui de la force française Barkhane. Alors pour une analyse, Eric Manirakidza a joint à Niamey le directeur de publication du journal L'Événement, Moussa Aksar.
Pas du tout, je suis pas l'avis du général Lecointre parce que c'est pas la France seule qui aide les États sahéliens à combattre le terrorisme. Nous, cette sortie du général nous a surpris puisqu'il y a plusieurs États qui sont là, il y a les États-Unis, il y a plusieurs États qui sont là, qui travaillent main dans la main avec les forces armées du Sahel pour combattre le terrorisme.
Il a aussi mentionné l'accompagnement des Européens.
Oui, effectivement. Moi, j'ai effectué plusieurs missions avec les forces françaises et africaines, et notamment sahéliennes, dans le lit du lac Tchad, à la frontière entre le Mali et le Burkina. Mais j'ai constaté effectivement qu'il y a des forces comme des États-Unis qui sont engagées et qui ont vraiment la bonne note des soldats sahéliens parce que, selon des reportages que nous ont fait, ces soldats leur ont apporté beaucoup plus de matériel d'entraînement. Et aussi, en matière d'instruction, les États-Unis ont beaucoup apporté à ces forces-là.
Il y a une forte présence de plusieurs militaires de ces pays du Sahel, de la France et de certains pays européens. Il y a les Nations Unies, les Américains, vous venez de mentionner, mais la situation ne s'améliore pas.
Mais écoutez, la situation est périlleuse. Si vous regardez un peu, c'est aussi à l'attitude de la France. Je suis d'accord qu'ils le disent, parce qu'il y a aussi l'attitude de la France. Aujourd'hui, dans ces pays-là, le comportement de la France est rejeté par ces pays-là, parce que la France a colonisé ces pays sahéliens et il n'y a pas la complicité de la population avec les forces armées locales pour combattre les terroristes, surtout avec l'aide de la France. C'est parce qu'elle qui est rejetée. Mais demander à cette population-là, qui se travaille avec certaines forces qui ne sont pas françaises, elles voudront d'elles-mêmes que le choix est déjà fait. Donc c'est ça la question.
Que doivent faire ces pays du Sahel pour pouvoir un jour prendre en charge totalement leur sécurité?
Écoutez, les pays du Sahel ont péché quand certains chefs d'État sont arrivés au pouvoir. Ils ont écarté certains de peur de perdre leur pouvoir par le coup d'État, parce qu'il y a des pays vraiment qui sont habitués à des coups d'État. Certains officiers qui ont fait leur preuve sur le théâtre des opérations ont été écartés du commandement. Il y a aussi un problème de formation. Si vous regardez au niveau des centres de formation qui ont alerté certains officiers qui n'ont pas fait leur preuve sur le théâtre des opérations, donc nous avons un problème de formation des soldats à la base. Si la base est faussée, il va de soi que sur le terrain qu'on récolte les conséquences. On en a vu que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, où c'est vraiment des jeunes recrues qui ont juste 2 ans d'instruction, qui sont engagés sur le terrain et qui perdent la vie. Donc, à mon avis, il faudrait que ces États-là réorganisent leur armée, qu'ils mettent des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, alors qu'ils peuvent prendre en charge leur sécurité, ils n'ont pas besoin de l'appui de l'extérieur. Si vous regardez par le passé, les forces armées du Niger ont eu à repousser les éléments du GSPC depuis 2012, c'est leur preuve. Donc pourquoi aujourd'hui ils ne le font pas?
Mais il faudra aussi régler les problèmes de gouvernance et de développement.
Absolument, il faut régler le problème de gouvernance et de développement. Il va de soi. Seule la force ne peut pas résoudre le problème. Quand vous avez des inégalités, il y a tout récemment un rapport qui est sorti le 9 juillet où on parle des inégalités dans cette région-là où il y a une classe qui s'enrichit et l'autre, un fort taux de pourcentage de population qui est laissée à elle-même. Donc comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une base qui constitue le terreau du terrorisme?
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement, joint à Niamey au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Pour rester au Niger, le taux de mariage d'enfants y est parmi les plus élevés au monde. 3 filles sur 4 y sont mariées avant l'âge de 18 ans, selon les Nations Unies. Reportage de Moki Edwin Kinzeka et Anne Zwanke. Récit Morgane Guiriac.
Balkissa Chaibou, 24 ans, rencontre des jeunes filles 2 fois par mois pour discuter de leur droit à s'opposer aux mariages arrangés. Si Balkissa s'est engagée contre le mariage des enfants, c'est parce qu'elle a été elle-même mariée de force à l'âge de 12 ans et contrainte d'abandonner ses études.
La sensibilisation fixe les jeunes filles. Il faut qu'elles sachent ce qu'elles veulent, qu'elles sachent qu'est-ce qu'elles doivent faire pour parvenir et où est-ce qu'elles veulent aller. Parce que là, si on connaît ses objectifs, on connaît ses ambitions, on sait où aller et on sait comment y parvenir. Il faut qu'elles sachent qu'elles ont toujours un choix, le choix de dire non.
Balkissa est devenue étudiante en médecine après avoir annulé son mariage. Mais il a fallu 5 ans de lutte contre ses parents, l'appui de la police et d'un groupe de soutien. L'un de ces groupes, SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences, a aidé des milliers de jeunes filles nigériennes à échapper au mariage forcé. Mais la lutte contre le mariage des enfants dans les pays comme le Niger, l'un des plus pauvres au monde, n'est pas simple.
Le plus souvent, nous saisissons le procureur de la République. Et en saisissant le procureur de la République, lui, il oblige les parents à renoncer à ce mariage, en les faisant signer un engagement comme quoi ils ne vont pas marier la fille.
Avec des revenus limités, de nombreux parents se concentrent sur l'éducation des garçons et marient leurs filles tôt. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, lors d'un sommet de l'Union africaine à Niamey le 7 juillet, s'est engagé à améliorer les perspectives des filles.
Il faut qu'on renforce leur employabilité, il faut qu'elles aient accès à un métier, il faut qu'elles sortent de l'école avec un métier. C'est ça qui peut leur permettre de trouver plus facilement un emploi et c'est ça qui peut leur permettre d'être plus autonomes.
En attendant, Balkissa encourage les filles à passer le mot à leurs amis. Personne ne peut les forcer à se marier et elles ont le droit de rester des enfants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les nouveaux responsables de Kinshasa limitent l'accès aux bars et terrasses qui ne pourront désormais ouvrir que de 18h à 23h en semaine. Cette mesure, qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'assainissement de la capitale, suscite déjà de nombreux commentaires. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe auprès des tenanciers des bars, terrasses et autres lieux de distraction très prisés par les Kinois. Selon le ministre provincial de l'Environnement et Aménagement de la ville de Kinshasa, les bars ne pourront désormais ouvrir que de 18h à 23h la semaine, de 18h à minuit le samedi et de 11h à minuit le dimanche sur toute l'étendue de la capitale de la RDC. Didier Tengelito.
Nous allons commencer par des mesures impopulaires et dans les 6 prochains mois, on verra des résultats avec des améliorations. L'État veut recouvrer ces espaces. Il y a des instructions précises, c'est-à-dire l'application stricte de l'édit 003 du 9 septembre 2013 qui prévoit les mesures d'environnement et d'assainissement de la ville de Kinshasa. En matière de construction, si on trouve, vous avez jeté des caillasses, entreposé ça sur la voie publique, nous on ramasse ça. Vous vendez le long des grandes artères, on ramasse ça. Conformément aussi à l'ordonnance du 31 mai 1975 qui définit les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, il dit que les tenanciers de bar peuvent ouvrir du lundi au vendredi de 18h à 23h, samedi de 18h à minuit, dimanche et jour férié de 11h à minuit.
Les bourgoumestres seront mis à contribution pour l'exécution sans faille de ces mesures, ajoute le ministre.
S'ils veulent ouvrir en dehors de ces heures, c'est auprès de M. le bourgmestre à qui il doit se référer. En matière de l'édit 005 du 9 octobre 2012 qui sanctionne les nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. Vous dérangez, vos baffles à l'extérieur, vous mettez la musique, ils vont saisir.
L'application de cette loi vieille de plus de 40 ans satisfait l'environnementaliste Jean Mangalibi, des amis de la nature et des jardins.
Cette ordonnance existait depuis 1970. Et qu'il a pu là, juste remis sur la table. Comme on l'a toujours dit, le Congo, nous sommes dans un pays où il y a des lois, mais le problème, c'est un problème de la mise en application. J'ai vu M. Lito en action quand il était à la commune de Kitambo. Il doit mettre en place une politique où l'autorité doit travailler avec la population doit accompagner l'autorité. Il faut une bonne communication.
Dans les rues de Kinshasa, dans les terrasses des bars que nous avons visitées, les avis sont partagés, mais beaucoup doutent du suivi de cette mesure.
Parce que moi je suis Kinois, je salue la mesure. Ça a dépassé les limites. L'histoire là de musique dans des bars, les histoires là de musique dans des églises jusqu'à des heures tardives au point où l'éducation de nos enfants en pâtit. Je crois que cette mesure là doit être vraiment suivie pour que enfin la calmie règne dans la vie. Si par le passé les autres n'ont pas pu le faire, mais je crois que la force de la loi est là.
D'abord je me pose la question, est-ce que le gouverneur avec son équipe, c'est-à-dire son gouvernement, ils ont eu à mûrir la question. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. On était avec Kimbuta, on en a connu, mais on sait comment ça s'est terminé, parce qu'il n'a jamais eu même pas un début d'exécution. Je me dis, c'est bien bon tout ça. Si ce ne sont pas des mesures mûries, je suis certain que ça n'aboutira pas. Et on appelle ça la kinoiserie.
Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.